Wait a minute now. Okay, take two.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech 2 7.2 sur Radio Alpa, une émission qui reçoit tous les 15 jours des artistes acteurs de la scène musicale sartoise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aristide D'Agostino pour la sortie de l'album Dipping Organ volume 1, sorti en mai dernier. Bonjour Aristide.
Salut Fred, tu vas bien?
Oui, très bien. C'est pas la première fois qu'on se croise et que je te reçois. Je t'avais déjà reçu en octobre 2022 pour Clap, puis en juin 2023 pour un projet avec le collectif 3h10 dont tu fais partie.
Exactement.
Cette fois-ci, je te donc reçois pour un album, on va dire un peu. Enfin, je vais le dire comme ça, un album un peu particulier dans ta production de ce qu'on connaît du moins sur le monde. Donc, il y a un album qui s'intitule Dipping Organ. La traduction de Dipping Organ, donc c'est le volume 1. Dipping Organ, c'est quoi? C'est une immersion de l'orgue?
Ouais, on peut traduire ça comme ça. En fait, c'est le nom aussi du groupe. Aussi, il faut le savoir, donc c'est un peu un album éponyme, comme on dit.
D'accord.
En fait, on cherchait un nom de groupe, et il y a une tradition dans le jazz, c'est toujours quand on a un organe trio, ou qu'il y a un orgue dans le groupe, c'est de le nommer dans le nom du groupe.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de jazz, organ, trio, etc. Et du coup, au début, ça devait s'appeler In Orbit With Organ, mais c'était déjà pris, etc. Puis j'avais déjà joué sous ce nom-là avec les gars, mais j'étais pas tout à fait convaincu. Et c'est en regardant un album de Hank Mobley, un des musiciens du groupe, un album qui s'appelle Dipping, a dit tiens, pourquoi pas Dipping Organ? Et je fais ah, c'est pas mal. Et du coup, c'est immersion dans l'orgue. On peut traduire ça comme ça, une plongée dans l'orgue.
Toi, ton instrument principal, c'est le bugle.
Ouais, alors oui, tu peux dire bugle, c'est à l'allemande, mais oui, pourquoi pas.
Alors, désolé, je pensais que c'était. Alors, comment on le prononce à l'allemand?
En français, on dit bugle et en anglais, on dit flugelhorn. Mais d'accord. Bon, tu peux dire bugle si tu veux.
Donc, bugle. Et donc, c'est une sorte de saxo, mais c'est de la trompette, c'est
non,
ça?
Non, alors, ça fait partie de la famille des saxhorns, enfin, plutôt des tubas. C'est le plus petit tuba. Pas le plus petit, puisqu'il est encore plus petit, mais ça joue dans la même tonalité que la trompette, donc en si bémol, comme une trompette en si bémol. Sauf que c'est
plus rond.
Et puis
il y a des pistons.
Ouais, il y a des pistons. C'est exactement la même chose. C'est juste la taille du pavillon et la forme de l'instrument qui est beaucoup plus conique. C'est-à-dire qu'une trompette, c'est cylindrique, ce qui fait que le pavillon s'ouvre qu'à la fin et que ça sonne très brillant, plutôt brillant. Même si nous, dans le jazz, on a plutôt un son chaleureux, mais c'est quand même plutôt brillant. Et le bugle, ça s'ouvre vraiment au fur et à mesure, et du coup ça crée direct un son sombre et rond, et notamment grâce à l'embouchure qui est beaucoup plus profonde aussi, donc ça crée un son plus chaleureux, et que je trouve qu'il se mariait assez bien avec l'orgue, parce que je trouve que la trompette se mariait moins bien, et j'ai mis un peu de temps à comprendre ça, et quand j'ai compris c'était cool.
Moi qui ne suis pas forcément un grand puriste de tous ces instruments, à l'écoute, j'ai eu l'impression donc, que c'était une trompette, mais une trompette avec une sourdine, je me trompe ou pas?
Ça pourrait s'apparenter à ça, hein. C'est-à-dire que quand on met une sourdine sur la trompette, il y a un côté plus chaleureux, plus...
Puis il sort sur le côté, plus ou moins?
Ouais, ça dépend des sourdines. La sourdine, par exemple, qui est la plus connue en jazz de Miles Davis, ça sort au milieu, ça s'appelle la Harmon. Elle jouait ça toute sa vie. Ça donne un son un peu plus cristallin, mais en même temps chaleureux avec du souffle. Bon, le bugle, il n'y a pas de sourdine, hein, c'est vraiment un pavillon ouvert et tout, mais qui crée vraiment cette rondeur, cette chaleur. Et avec l'orgue, comme je dis, je trouvais ça mieux. Je l'ai retesté encore avant-hier en répète. J'ai essayé avec la trompette, ça marche moins bien. Il faut le bugle, quoi.
On va écouter tout de suite, on va se jeter dedans pour que les gens puissent bien comprendre de quoi on parle depuis 2-3 minutes. Donc on va passer avec le titre donc Art Deco. Donc on va le dire rapidement sur cet album. C'est beaucoup de, alors comment on dit, des covers, des reprises, des réinterprétations. On dit en jazz ce genre de choses?
T'as dit le beau. Alors cover, on dit moins, mais c'est parce que je pense que ça c'est un terme qui est plus tardif. Dans le jazz, il y a une longue tradition de reprendre les morceaux des autres. Enfin, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Ici sur cet album, j'ai décidé de reprendre beaucoup de morceaux, donc 5 reprises pour une composition, parce que je voulais aller puiser dans les morceaux qui m'avaient donné envie de jouer du jazz. Et d'aller dans cette musique.
Et donc Art Déco, c'est un titre de Don Cherry, donc oui. En 88, donc c'est malgré tout un titre de jazz récent.
Ouais, mais alors la particularité pour ce thème, c'est que Don Cherry, bon, c'est plutôt un trompettiste, disons, de free jazz, qui a expérimenté vachement dans les années 80. Et il a un album où il a fait un peu un retour aux sources et il a pondu ce morceau qui est quand même plutôt très proche d'un standard de jazz. Alors, standard ou jazz tune, c'est très différent. Il y a les standards, c'est les reprises de comédies musicales. Mm-hmm, donc, c'est des chansons. Donc, ça, c'est vraiment Broadway, etc. Et les jazz tunes, c'est les musiciens de jazz qui ont composé des morceaux. À partir, des fois, de standards. Mm-hmm. Donc, c'est un peu différent. Là, on est sur un jazz tunes, mais qui sonne comme une chanson, quand même. Donc, j'aime bien ce morceau.
Art Déco, extrait de l'album Deeping Organ Volume 1 d'Aristide D'Agostino. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans dans l'émission Tech2 7.2. Cet album, donc, ben, je le dis, il est sorti en mai dernier. J'ai lu quelque part que c'était sur ton propre label Sauce Records. qui, alors, pour nos auditeurs, sauce, c'est pas la sauce, le mélange, ou. Non, c'est sauce saucisson. c'est ça. Et donc, tu avoues que cet album, c'est un retour aux sources. Bon, là, on l'a entendu, puisqu'on est, dans un jazz qui se référence aux années 50. Pour moi, même si le titre était des années 80, j'avais une espèce de sonorité un peu ascenseur pour échafaud.
Ouais. Fin 50, début 60.
Voilà.
Ouais.
Et puis, on va dire 57, ascenseur pour, pour échafaud.
L'orgue, c'est un peu compliqué parce que ça apparaît plus tardivement. C'est plutôt les 60s, en fait. Mais il y en avait déjà dans les années 50.
Et puis, tu as aussi dit que cet album, c'est aussi un album hommage à un ami, un guitariste qui s'appelait Eric Lallière. C'était quelque chose d'important, un peu cet album, ça la disparition. Comment s'est passé le processus?
Oui, c'est mon vrai premier disque personnel, on va dire, quand même. Ça, c'est important de le dire. J'ai eu plusieurs projets avant à Bruxelles, etc. J'avais déjà enregistré un premier disque, mais bon, c'était un peu différent. J'étais pas vraiment seul sur les projets. Là, c'est vraiment un projet que je monte de A à Z. J'ai fait la pochette
bleue.
Voilà, j'ai tout fait. Et en fait, c'est parti d'un... À l'époque, avant que je parte à Bruxelles, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai rencontré deux musiciens qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui ont décidé de monter un trio. Donc un contrebassiste qui s'appelle Patrice Rousseau, qui est un très bon ami à moi, que je salue aujourd'hui, que j'aime énormément. Et un guitariste... qui s'appelait, et malheureusement, Eric Lallière, qui était un super guitariste. Et tous les deux étaient, pas dire musiciens professionnels, mais vraiment pas loin. En fait, ils gagnaient juste pas leur vie avec ça, quoi. Mais ils étaient avec un sacré niveau. Et ils m'ont mis le pied à l'étrier et ils m'ont formé, carrément. Donc ça m'a permis de vraiment avancer avec eux, ils m'ont poussé. Et quand je suis revenu vivre au Mans, en fait, on a commencé à rejouer ensemble, puisque ça faisait des années qu'on n'avait pas joué ensemble, vu que j'étais parti quasiment une petite dizaine d'années à Bruxelles. Et malheureusement, Eric est décédé peut-être un an après qu'on ait commencé un peu à rejouer ensemble. On a fait 3-4 dates, hein, pas beaucoup. Mmh. Et il m'a avoué, le dernier jour que je l'ai vu, on était au resto tous les deux, il m'a avoué, tu sais, il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est jouer avec un organe trio. Donc c'est un grand classique. Les guitaristes adorent jouer avec l'orgue, etc. Et je dis, bah écoute, c'est rigolo, j'ai commencé à en monter un à Bruxelles, enfin au Mans, avec des amis musiciens qui connaissaient. Et il m'a dit, ah ouais, c'est chouette, et on a échangé là-dessus. Et je me suis dit, bah en fait, je vais lui dédier l'album, tout simplement, parce que je trouve qu'il y a des morceaux qu'il aimait énormément jouer aussi, et qu'on joue ensemble. Et ma composition, la première fois que je l'ai joué, c'est avec lui. Donc, je me sentais vraiment... je ne suis pas redevable, mais en tout cas, d'une certaine manière, j'avais envie de lui rendre hommage, tout simplement. Mmh. Je pense que c'était bien. Et voilà, je trouve que c'est cool de lui... qu'il y ait un album qui est pour lui, quoi, tout simplement.
À travers ça, c'est parce que vous aviez une connexion sur le jazz à 50, d'avant-guerre. Il y avait aussi l'idée d'origine. Il y avait déjà cette envie de se refaire, de reprendre l'antique jazz.
Moi, j'ai toujours eu je disais tout à l'heure, entre guillemets, le cul entre deux chaises, mais j'aime bien avoir les deux pieds de pas dans le même sabot. Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui, je sais pas si les musiciens de jazz ont des sabots.
Mais
pourquoi pas
à une époque peut-être. J'ai toujours eu un pied dans, disons, le jazz moderne de composition, notamment avec Go to the Duck, Super Pocket, le collectif 3/10.
Et d'improvisation, c'est comme ça qu'on te connaît un peu sur le Mans, c'est avec cette recherche aussi de free jazz.
Plutôt de free jazz, même si je pense que pour jouer le free jazz, c'est bien de connaître les standards.
Oui, c'est l'apprentissage.
C'est l'apprentissage.
Mais justement, c'est ça ma question, c'est dans ce côté free, même si je construis des phrases et puis après j'essaie de les caser dans la partie libre, s'il y avait ce besoin de retour un peu, de reprendre des standards, parce que ce que j'ai vu en cherchant un peu, donc sur ces six titres, il y en a un donc, qui est une construction de ta part, un morceau qui t'appartient, mais on a aussi du Kurt Weill, si je ne me trompe pas, avec Speak Low, donc c'est quand même un titre des années 43. Ouais. Qui est une comédie musicale, chant avec chez chanté. On retrouve quand même cette recherche des origines du jazz. Alors, oui. 43, là, on est en pleine guerre, mais ça peut être aussi avant-guerre.
Ça dépend ce qu'on joue, mais en fait, il y avait cette volonté de retour aux sources. Mais tu sais, il y a une tradition dans le jazz, quand on est musicien de jazz, c'est de reprendre. Et surtout, quand on est jeune, il faut montrer un peu ce qu'on est capable de faire sur les standards pour après, tu vois, ce que je veux dire. Aller vers autre chose. Et ça, je ne l'avais pas encore fait, en fait. Je n'avais pas encore fait cette chose-là. Et pour moi, c'était très important. Je me suis dit, je suis arrivé à un point de maturité sur certains standards où je me dis, là, j'ai quelque chose à raconter, peut-être de différent. Alors forcément, avec mes moyens, avec ce que je suis, avec la sincérité que j'essaye de mettre là-dedans, hein, je ne me cache pas ou quoi, et ce que je peux faire. Et puis, c'est une longue tradition. C'est-à-dire que moi, je, dans ma vie, j'avais toujours rêvé, quand j'avais attaqué le jazz, de faire un album de standard, en tout cas. Et bon, pas n'importe comment, parce que j'ai essayé de choisir une instrumentation différente. Hein. Donc, le bugle, l'orgue et la batterie, ce qui ne se fait pas beaucoup. Mais en effet, il y a beaucoup de standards. Il y a beaucoup de standards. Et encore des standards pas trop joués. J'étais puisé dans des choses que moi j'aimais quand j'étais plus jeune et que je jouais beaucoup. Enfin, en tout cas, que j'essayais de jouer. Et si c'est des choses que les gens jouent beaucoup, on les a réarrangées.
Réinterprétées. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas fait un album de standards compile, c'est, même si ça s'appelle volume 1, donc on présuppose qu'il y en aura d'autres. Mais c'était aussi peut-être effectivement ce retour aux sources de montrer d'où tu venais et puis voilà ce que tu avais assimilé dans toutes ces années d'études.
Et c'est pas facile de des fois se jeter à l'eau sur ce genre de choses parce que ça a tellement été fait, ça a tellement été poncé, ça a tellement été et je me suis dit il faut que j'apporte quelque chose, donc le choix des instruments n'est pas anodin, et puis le choix du bugle non plus n'est pas anodin, et le choix des morceaux n'est pas anodin, et on les a longtemps travaillés, on a beaucoup bossé, moi j'ai amené mes idées, et il y a quand même un peu de ça joue pas non plus super traditionnel non plus, il y a un peu d'ouverture etc. Avec les musiciens que j'ai dont on va parler dans pas longtemps je pense, mais que j'ai appelé, voilà, j'ai choisi aussi les gens avec qui je voulais travailler, et j'ai choisi le son que je voulais. Tu disais 50, on est plus sur un son des 60s quand même.
Tu trouves, toi, mais c'est à cause de l'orgue peut-être que
oui,
ça,
c'est ça, ouais.
Qu'il y a ce niveau-là.
C'est ça, c'est le côté orgue qui fait. Et puis, je voulais que ça soit un trio, en fait. Parce que je trouve que dans le trio, il y a toujours... Il y en a un qui part, deux qui restent. Il y en a deux qui partent, il y en a un qui reste. On peut jouer, en fait, des codes et des formes, etc. Et c'est intéressant.
Je dirais que c'est la formule mythique du rock'n'roll.
Ouais, c'est ça. Mais ils sont un peu rock'n'roll, les musiciens qui jouent.
On va écouter un deuxième extrait. Donc, cette fois-ci, c'est un titre donc, de Larry Willis. Et le titre s'intitule « To Wisdom the Prize ». Wisdom the Prize de Larry Willis, donc interprétation par Aristide D'Agostino, et donc le trio avec donc cet album Deeping Organ Volume 1 sorti en mai 2024. On arrive dans cette troisième partie sur Radio Alpa dans l'émission Tech2 7.2. Tu as commencé à le dire. Les comparses que tu as choisis pour ce trio, puisque c'est un trio, donc Olivier Leveau, qu'on connaît bien sur Le Mans, et puis aussi qu'on connaît bien à la MJC, Jacques Prévert, puisqu'il donne des cours de piano ici, et donc qui s'est mis derrière un orgue. Et puis Dominique Mettet à la batterie, que tu connais, et que pareil, avec qui tu as déjà, déjà joué. Et sans oublier, il faut quand même le citer, Jean-Emmanuel Doucet, qui est alors à la réalisation, à la prise de son.
Exactement.
Pourquoi tu as choisi ces trois personnes-là? Et alors, moi, je connais bien Olivier Leveau. Je ne savais pas qu'il avait un orgue ou un orgamon, ou un synthé qui faisait l'orgamon. Je ne savais pas qu'il avait cette capacité-là.
Ouais. C'est une longue histoire. Dans le milieu, les gens le savent, mais comme on dit le milieu, donc quand je dis milieu, c'est milieu du jazz, bien sûr, avec ses codes, etc. Mais en fait, Olivier, il a commencé avec l'orgue. Ça, il faut quand même le savoir. Typé orgue d'église, mais il a commencé avec l'orgue. Et après, c'est mis au piano. Donc, il est plus connu.
Il donne des cours de piano, donc on se dit qu'il doit savoir jouer du piano.
De jazz, voilà. Donc, c'est un jazzman, vraiment un vrai jazzman. Et il a toujours eu un orgue. Alors, il a pas un B3.
Il a pas le Hammond de
B3. Il a pas le Hammond, même s'il a joué sur des Hammond, etc., et qu'il connaît bien. Faut savoir qu'un Hammond, il faut une remorque pour le transporter. Vu qu'Olivier fait quand même beaucoup de concerts à droite à gauche, et qu'il est sideman dans pas mal de projets, etc., et qu'il a même un projet Organic Song qui est dédié à l'orgue aussi, il faut quelque chose de transportable. Donc ça fait un bon nombre d'années qu'il l'a acheté, même si en ce moment on réfléchit à ce qu'il achète un nouvel instrument, mais il a un VK77 Roland sans Leslie, mais avec une émulation de Leslie dessus, et qui fait le taf super bien, et qui me va, et qui a créé un peu le son du groupe aussi.
Oui, à partir du moment où tu as une cabine Leslie, ça crée quelque chose, quoi.
Voilà, et il maîtrise bien cette bête-là, parce que c'est quand même une... faut quand même le prendre en main, le bazar. C'est quand même un gros bazar. Mm-hmm. C'est quand même lourd aussi. Voilà, donc ça, c'était un peu une évidence de l'appeler. Et j'avais commencé à monter cette formation à Bruxelles. Il y a eu le Covid, en fait. Donc, mes potes, vu que je suis parti de Bruxelles, les amis avec qui j'ai monté ça à Bruxelles, c'était pas possible. Et ça s'est imposé d'office, que ça soit Olivier, parce que on partageait un peu, on a joué beaucoup en duo. On joue toujours d'ailleurs beaucoup en duo. Un piano-trompette, l'alter ego d'Olivier au Mans en batterie, c'est Dominique Mété. Ils ont joué énormément ensemble. Et Dom, on avait commencé à monter un projet ensemble assez open, assez jazz, un peu à l'ancienne, mais très, très ouvert, en fait, avec un contrebassiste qui est parti vivre au Danemark, qui s'appelle Samuel Foucault. Et je me suis dit, en fait, il faut rassembler les deux. Et créer ce trio. Et ça s'est tout de suite, ça a sonné, quoi. Il n'y avait pas de... C'était une évidence, en fait.
La construction des morceaux, ça s'est passé sur plusieurs années. C'était des morceaux que tu avais en stand-by, que tu as ressortis pour l'occasion parce que c'était le moment. Et puis, comment tu as travaillé? Tu as donné des parties ou ça s'est fait par répète et puis on progresse, par les répètes?
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des envies, des versions d'envoyer aussi de ma part. J'aime beaucoup cette version d'un tel. Je pense que c'est cool de s'en inspirer. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, tu vois. Miles Davis, par exemple, il a enregistré tel morceau en 53, et en 56, Kenny Dorham, il rejouait un peu la même forme sur ce même morceau, mais en changeant des choses. Ou Chet Baker, peu importe, ou d'autres musiciens. Hein. Je me souviens de Joe Anderson qui disait que Kind of Blue, par exemple, il l'avait écouté un nombre de fois incalculable et qu'il avait 20 vinyles chez lui, morts. Tu vois, parce qu'il avait tout repiqué, etc. Donc c'est vraiment une tradition de ça. Après, on a beaucoup répété. On a répété pendant quasiment un an avant d'enregistrer. On a joué deux fois en concert avant. Et maintenant, on joue régulièrement. Mais ça a été un long travail de répétition où on a vraiment bossé. Et encore,
la mise en place,
on est en train de bosser parce qu'il y a la suite qui se prépare. On va en parler après.
Justement, vas-y, si. Il y a volume 2, volume 3.
Le but, c'était de reprendre tous les codes de ce côté, même la pochette, tu vois. C'est quand même des codes de l'époque. Ça fait référence un peu au label Blue Note, etc. Le but, c'était de reprendre tous ces codes-là. Et moi, j'aime bien. Je sors il faut que ça aille vite, tu vois. On a enregistré, je crois que c'était en janvier. C'est sorti en mai. Là, on va enregistrer en novembre prochain le volume 2. Ça va sortir avant la fin de l'année. Il faut que ça soit fait, ça va être mixé.
Donc, un triptyque en 2 ans, quoi.
Voilà, un triptyque en 2 ans. C'est le but, vraiment. Et que tous les albums vont être de la même couleur. Enfin, pas de la même couleur, mais ça va être exactement la même...
Donc, il y aura la déclinaison jaune,
Ça va être vert. Ça va être ce genre de choses, en fait, tu vois. Et à la fin, je vais tout rassembler dans un seul et même disque, je pense. Mais le but, c'est d'avoir, et puis après, un album live. Aussi, plus tard.
D'accord.
Mais pour l'instant, on a le temps, hein, vraiment. Et pareil, prochain album, certainement 6 titres, encore une fois, peut-être un peu plus, avec un invité, j'espère, on va voir, je ne dis rien, mais...
avec on va garder invité. La surprise de
garder
savoir
la surprise,
s'il y a des guests qui arrivent...
Sur un morceau qui a peut-être... un morceau qui est sur un album qui a peut-être influencé la majeure partie des, entre guillemets, des organes trio qui étaient, disons, modernes, donc plutôt qui jouaient un jazz assez velu, etc., donc hard bop. Donc, je vais inviter quelqu'un là-dessus. Il va y avoir une compo à moi, une autre compo, je pense, très différente. un peu en marge. Et là, on est en train de préparer les morceaux. Et là, tu disais le processus pour faire les morceaux. Bah, il est simple, je ramène le morceau la plupart du temps. Après, il y a Olivier qui a ramené une idée de morceau et on est en train de la bosser. Dom, il a ramené des fois des idées de morceaux, on les bosse. Parce qu'il y a le set live aussi qui est un peu différent de l'album, que je manie différemment. On enchaîne les morceaux, on ne fait pas trop de pauses entre les morceaux.
C'est bien ça. Moi, j'aime bien les concerts où on cause pas au milieu.
Un concert, machin.
Et on raconte pas sa vie.
J'explique le truc, etc. Les CD, etc. Mais vraiment, le processus, c'est ensemble. C'est beaucoup ensemble. Par exemple, hier, on a bossé Nostalgia in Times Square de Mengus, Charles Mengus. Et on a bossé tout le processus ensemble. Ah ouais, ça serait bien qu'on rajoute ça. Ah ouais, tu penses là-dessus. C'est vraiment un peu comme un match de basket, quoi. On se donne la balle, tac. C'est vraiment un... Et puis ça joue, quoi, et ça vit, hein. Le but, c'est une musique vivante, hein, le jazz, c'est pas figé, quoi. C'est pour ça qu'on la pratique. C'est pour ça que c'est dur d'en jouer d'autres, après aussi.
Ouais. Écoute, merci beaucoup, Aristide, d'être passé dans l'émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa. On va se quitter avec ton morceau, le morceau de composition donc, qui s'intitule Flabbergasted, qui veut dire tomber sur le cul, c'est du moins l'interprétation qu'on a. Et j'espère que les auditeurs seront tombés sur le cul sur cet album, ce volume 1. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça correspond plus à ce que moi j'écoutais comme jazz quand j'en écoute. Donc j'ai vraiment kiffé cet album. J'espère découvrir et être surpris par le volume 2 et puis le volume 3. Écoute, merci beaucoup Aristide d'être passé dans l'émission et puis pour les auditeurs, on se retrouvera dans 15 jours avec un nouvel invité. Bien évidemment, on se quitte avec le titre Flabbergasted, extrait de l'album Dipping Organ volume 1.
Merci à toi. Thank you.